BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag. Erwan Morris.
Et bienvenue dans Happy Boulot. Quel plaisir de vous retrouver sur BFM Business dans notre émission consacrée à votre vie au bureau comme tous les week-ends. Au programme dans cette émission, la qualité de vie au travail et de quelle manière est-ce qu'on peut l'améliorer. C'est un sujet très concernant. On en parle avec quelqu'un de très bien placé. C'est une DRH, Sophie Audebert, chez Nexity, numéro 1 des promoteurs immobiliers. Notre sujet sur la table, il est essentiel ce week-end. On va voir comment bien former nos managers, et c'est pas une mince affaire. Trois invités avec nous à suivre pour en parler. Et puis, si vous recrutiez, ou plutôt que vous postuliez, si vous êtes candidat, et ce, sans CV, c'est ce que nous propose de faire Laurent Arnaud, fondateur de la start-up Je ne suis pas un CV. Il sera notre invité en fin d'émission dans le Labo RH. Voilà le programme. Un grand merci d'être avec nous. C'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH.
Bonjour Sophie Audebert.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice des ressources humaines du groupe Nexity, groupe immobilier dans la promotion et les services.
Tout à
fait. Côté OSBF 120, 8500 salariés en France. On va peut-être commencer par là. Sophie Audebert, ça ne doit pas être une mince affaire de diriger les ressources humaines d'un tel groupe.
C'est pas une mince affaire, mais c'est passionnant. Il y a énormément d'enjeux. Je crois que pour diriger les ressources humaines d'un grand groupe comme Nexity, il faut avoir des convictions. Moi, la mienne, c'est que vraiment, au-delà des compétences techniques que doit avoir une équipe RH, et ça c'est évident, c'est l'authenticité. Je suis vraiment en phase avec une gestion des ressources humaines de proximité, être à l'écoute et être aligné, c'est-à-dire dire ce que l'on va faire et puis faire ce que l'on dit. Donc voilà, ma porte est ouverte et je demande à mes équipes aussi d'avoir une gestion d'accompagnement des managers au quotidien.
C'est facile d'avoir un contact avec des milliers de collaborateurs quand on est dans un groupe comme Nexity, à l'inverse de quand on dirige les ressources humaines d'une PME. C'est quoi la particularité ?
Alors, je crois que... Bon, déjà, je suis dans le groupe depuis un petit moment, donc je connais beaucoup de monde. Je pense être assez facile d'accès. On n'hésite pas à venir me voir. Maintenant, je reconnais ne pas connaître les 8500 collaborateurs.
C'est impossible.
Impossible, oui. D'autant plus que la plupart de nos collaborateurs sont en région. On a 400 implantations régionales, donc je ne peux pas connaître tout le monde. Mais je pense avoir une bonne connaissance de nos métiers.
Et vous arrivez à prendre la température régulièrement du moral, du quotidien, de salariés de ce groupe ?
Alors, je crois que c'est essentiel de savoir ce qui se passe sur le terrain, vraiment d'avoir des remontées de terrain par mes collaborateurs, évidemment, de la RH, par les managers, les partenaires sociaux qui jouent le rôle également. Et puis surtout, on a fait une enquête et je crois que pour pouvoir s'améliorer, il faut mesurer.
Oui.
Et donc, c'est
qu'est-ce
la
que ça donne ?
Troisième année et on a été certifié Great Place to Work. Donc, c'est une grande satisfaction, une grande fierté. Et on est aussi classé sur les Best Workplaces. Donc, on est sixième parmi les entreprises de plus de 2500 collaborateurs.
Avec quels ingrédients ? Qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous injectez dans cette entreprise pour que les salariés se sentent bien au travail ?
Alors, il y a plusieurs facteurs. Je crois que ce qui est important, c'est de se dire que on s'améliore. On est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Il y a des domaines pour lesquels on est plutôt bien, d'autres qui sont encore perfectibles, mais je vous donne un exemple. Les collaborateurs considéraient peut-être qu'au niveau rémunération, c'était pas forcément toujours très lisible. Donc on a renforcé ça, on a fait des petits films pour expliquer, on a fait un BSI digitalisé qui est plutôt, je pense, de très bon niveau qualitatif. On a négocié un accord d'intéressement groupe pour que l'ensemble de nos collaborateurs, quelle que soit la structure, la filiale, l'endroit dans lequel ils travaillent chez Nexity, ils puissent percevoir un partage de la création de valeur et donc tout le monde touche un intéressement groupe.
Vous parliez à l'instant du flou que parfois on peut voir sur les questions de la rémunération. C'est quoi la grille ? Pourquoi un tel est peut-être mieux payé qu'un autre ? Parfois on ne le comprend pas. Il faut aborder ces problèmes, donner des clés plutôt que de les éviter.
Ah oui, moi je suis tout à fait en faveur, effectivement, de donner de la transparence, expliquer, c'est aussi le rôle des managers, d'expliquer à leurs collaborateurs pourquoi cette année, le manager a choisi de donner une augmentation ou pas à ses collaborateurs, recevoir, donner du sens. Je crois que c'est vraiment fondamental, que chacun puisse se retrouver, que chacun puisse s'épanouir, et je pense que c'est l'épanouissement individuel qui va porter, qui va donner du sens au collectif. Donc on a mis beaucoup de mesures effectivement sur la qualité de vie au travail.
Vous mettez en place un plan stratégique baptisé Imagine 2026.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ce plan? Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? En gros, les grands chapitres que vous avez décidé de mettre en avant, de sélectionner pour améliorer cette qualité de vie dans les bureaux.
Alors c'est le plan stratégique de l'entreprise Imagine 2026 qui va nous permettre de développer de nouveaux produits, parce qu'on a un opérateur global d'immobilier, c'est-à-dire, comme vous l'aviez dit, on intervient sur la promotion, mais sur les services, et donc faire en sorte de développer notre part de marché, nos résultats à 2026. Et en fait, on sait aujourd'hui que la réussite du déploiement d'un plan stratégique passe nécessairement par l'engagement des collaborateurs et des managers. Donc plusieurs choses pour qu'ils se l'approprient. Déjà, on a beaucoup communiqué, on a démultiplié, on est allé à leur rencontre, on a fait des tables de jeu pour qu'ils puissent s'approprier ce plan stratégique. Nous avons formé nos managers, parce qu'un manager, il est à l'aise s'il lui-même comprend bien. Donc on les a formés, on est en train de déployer un grand plan de formation pour eux, pour qu'ils soient à l'aise dans leur posture, parce que dans l'ADN de Nexity, un manager, c'est un manager du développement pour développer ses équipes, un manager inclusif, et je crois que c'est fondamental aussi ça.
On va parler justement juste après vous, on recevra nos invités, ça sera notre débat du week-end dans Happy Boulot, la formation des managers. Ça c'est vraiment un sujet très préoccupant. On a tous été, je pense, dans notre carrière, vie au travail, en contact avec des mauvais managers. On essaiera de savoir aussi pourquoi. On parlait de la formation, vous avez aussi le CFA,
oui.
CFA Nexity, pour former des apprentis dans l'immobilier. C'est-à-dire que vous avez
exactement
intégré ces formations dans votre entreprise.
Oui, tout à fait. En fait, on a créé le CFA, les apprentis de l'immobilier, il y a 2 ans. Là, on est sur la 2e promotion, donc c'est assez récent. En fait, ça répondait à un double objectif. D'une part, on voulait vraiment avoir une action d'engagement social et sociétal auprès des jeunes, surtout auprès des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui n'ont pas forcément facilité pour trouver une entreprise. Donc nous, on voulait les accueillir. Et puis c'est gagnant-gagnant, parce qu'on les forme sur des métiers dont on a besoin, qui sont pénuriques chez nous. Alors, ça ne répond pas à tous nos besoins en alternance. On a environ 500 jeunes en alternance aujourd'hui chez Nexity. Mais là, les jeunes que l'on forme, on les forme aux méthodes Nexity. Ils seront diplômés avec des diplômes reconnus, évidemment. Et ensuite, l'objectif, c'est de les intégrer.
C'est peut-être plus intéressant pour Nexity d'internaliser la formation.
Oui, parce que on les forme directement sur le... Alors, on est adossé à des écoles, mais il y a un grand nombre d'heures de formation qui sont dispensées par des professionnels de Nexity, des experts qui vont aller transmettre leur savoir. Donc, le jeune sera très opérationnel lorsqu'il sera embauché.
Et l'objectif, j'imagine, parce qu'on est aussi dans une période de pénurie de talents, vous êtes aussi concerné dans votre secteur, c'est de garder ces apprentis à l'issue de leur formation.
Exactement. Tous ceux que l'on pourra garder, et c'est ce qui s'est passé sur la première session. Il reste, oui, bien sûr.
Tout ça nous fait venir à un autre sujet, Sophie Audebert, DRH du groupe Nexity, c'est que le pouvoir aujourd'hui, il est du côté non plus de l'employeur, de recruteur, mais beaucoup plus du côté de celui qui va postuler.
Oui.
Comment on fait pour convaincre un candidat de venir chez vous?
Alors c'est vrai, vous avez raison, le rapport de force s'est inversé entre le candidat et l'employeur. Déjà, ce que nous avons fait, nous avons retravaillé notre marque employeur pour qu'elle soit vraiment le reflet de qui nous sommes chez Nexity, donc avec une baseline qui est Nexity, l'entreprise des possibles. Et donc on a voulu s'adresser aux candidats en leur disant: venez, vous êtes passionnés, nous on aime les gens passionnés, audacieux, agiles, venez avec vos passions. Si vous êtes passionnés même par des en dehors de l'immobilier, vous serez passionné chez nous. Donc voilà, alors on est ravis, ce sont des collaborateurs qui incarnent cette marque employeur. Et là, on a fait un nouvel appel à candidature. On a plus de 200 salariés qui ont très envie de porter haut l'image de Nexity. Donc c'est une grande fierté. Ce qui correspond aussi, ce qui permet à un collaborateur, à un candidat de devenir collaborateur, c'est lui permettre de se projeter chez Nexity. Avec 200 métiers, on est seul. Voilà, on offre des perspectives. On ne leur dit pas, vous allez faire toute votre vie le même métier, mais vous pourrez changer de métier, vous pourrez vous former, vous pourrez renforcer votre employabilité.
En fin d'émission, on va aussi parler du recrutement sans CV. C'est quelque chose qui vous parle, que vous avez testé ou qui ne vous intéresse pas?
Alors, on n'a pas testé le recrutement sans CV. C'est vrai, chez Nexity, pour le moment, on est resté un peu sous un format plus traditionnel. Ce qu'on a fait, en revanche, qui est un peu nouveau, on a créé un centre de recrutement interne qui nous a permis d'optimiser donc nos méthodes de recrutement, pour lequel, effectivement, on a très bon retour de la part de nos managers. Et puis, on a développé énormément la cooptation, qui est un vecteur important de recrutement. Parce que c'est très qualitatif, nos collaborateurs sont nos meilleurs ambassadeurs et quand ils vendent l'entreprise, ils la vendent telle qu'elle est. Et donc, voilà, ça porte bien ses fruits.
Merci beaucoup, Sophie
Adverbe. Merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous, DRH du groupe Nexity, dans Happy Boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table.
Je suis sûr que vous tous qui nous écoutez et regardez en ce moment, vous êtes déjà tombés sur un mauvais manager, 100%. Il n'y en a pas un qui va me dire que c'est pas vrai. Peut-être que vous en avez été un d'ailleurs de mauvais manager. Et si ça peut vous rassurer, eh ben il y en a beaucoup. Vous n'êtes pas seul. Mais alors comment finir avec les managers qui ne sont pas faits pour ça ou qui n'ont pas peut-être les bons atouts dans leur poche, on en parle avec nos invités. J'accueille Géraldine Dupont-Calvi. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes dirigeante de GDC Coaching Conseil Formation. Vous coachez donc les dirigeants, les managers. Face à vous, Aymar Leclerc, fondateur de Délégatio, solution de suivi des heures de délégation des entreprises. Et Violette Lebuhan, associée chez Ignition Programme, agence de recrutement et formation. Vous êtes avec nous pour nous aider à y voir plus clair. Peut-être aussi apporter des solutions. Ce sujet qui est, je trouve, très préoccupant, très concernant. Le mauvais manager, on le connaît tous. Il y a peut-être deux raisons à ça. Enfin, à vous de me dire si c'est le cas. Soit il n'est pas fait pour ça, soit il n'a pas été bien formé. Géraldine Dupont-Calvi, peut-être pour commencer.
Oui.
D'accord avec ça ?
Alors, oui, il peut ne pas être fait pour ça. En termes de personnalité, on peut déjà ne pas vouloir, ne pas avoir envie.
Est-ce que ce n'est pas déjà tout le problème ? Commencer par être manager sans le vouloir.
Absolument. Alors, très souvent, on en parlait avec Violette d'ailleurs tout à l'heure, l'idée c'est de se dire que parfois on est nommé manager alors qu'on n'en a pas demandé. Finalement, on n'a pas demandé à l'être. Et qu'ensuite, derrière, il faut se former. Il faut acquérir les bons réflexes, les bons process pour être bien à son poste et avoir la bonne posture.
Comment ça se fait qu'on en est encore là à nommer des managers qui ne veulent pas de ce poste ?
Ça, c'est terrible. C'est un gros problème. Je pense qu'une des raisons, c'est qu'on nomme des gens qui sont très bons dans leur métier historique, qui sont des experts, et qu'on se dit, comme c'est un excellent commercial, ça va être un formidable directeur commercial.
C'est des métiers différents à chaque fois.
Et il a un rôle aussi qui est assez complexe parce qu'on lui demande à la fois de pouvoir répondre au quotidien aux réponses des collaborateurs et en même temps de favoriser un bon climat social. Donc il a aussi des attentes de la part des directions qui est très très important et qui pèse sur ses épaules au quotidien.
Est-ce que c'est, je dirais, un mal français de faire du manager une promotion ? Ou est-ce que à l'étranger, ailleurs, dans d'autres méthodes de travail, dans d'autres pays, ça fonctionne de la même manière ?
Il y a une reconnaissance à l'égard du manager qui a été très clair sur le fait d'avoir une fonction managériale avec des équipes importantes. Je trouve qu'on y revient de plus en plus, puisqu'aujourd'hui, la fonction de manager, on accepte qu'elle soit plus petite, plus restrictive, et on sent bien que le manager a tellement sur ses épaules à porter en termes de contraintes et de difficultés, que du coup, on accepte aujourd'hui d'avoir des parcours qui sont tout aussi valorisés, mais qui ne sont pas forcément dans des fonctions de manager.
Violette Lebuhan.
C'est très français quand même, cette histoire de titrer, de dire que c'est quand même super excitant d'être manager, de le mettre sur LinkedIn en mode effet waouh. Ouais. C'est un peu moins, je pense, chez nos confrères anglo-saxons. Donc j'espère qu'on en revient. Je suis d'accord avec toi, Aymar. On commence à contrer un peu ce truc-là avec des experts qui deviennent de plus en plus reconnus et management qui est un peu en déclin, malheureusement.
Géraldine Dupont.
Ouais, ouais, moi, je rajouterais peut-être une chose, c'est qu'à défaut de parler de management, on peut peut-être parler aussi de leadership. C'est des mots qui sont assez voisins. Et en fait, aujourd'hui, peut-être qu'on cherche plus des leaders que des managers. Même si, dans la fonction managériale, on demande de coordonner. Il y a aussi cette fonction de leadership et cette posture qui prend toute sa place aujourd'hui.
Avoir du leadership, c'est-à-dire être capable d'entraîner les équipes, c'est ça ?
Oui, d'entraîner les équipes autour d'une vision. Et puis avec quelque chose qui est très important aujourd'hui pour les jeunes Z, la génération Z qui est née à partir de 94, c'est donner du sens. Donner du sens. Et aujourd'hui, être un bon manager, c'est aussi avoir cette capacité à construire une vision en relation avec la vision globale de l'entreprise, à donner du sens aux équipes et avoir cette posture de coach qui va permettre à chacun de grandir, d'acquérir les compétences pour servir cette vision et ses objectifs.
La vision, c'est souvent le problème. Parfois, on ne sait pas quelle est en fait la vision du manager, de l'entreprise. On ne sait pas en fait pourquoi on travaille. Et ça, c'est quand même un gros problème, non ?
Oui, et ça, c'est au cœur de la fonction managériale aujourd'hui que d'arriver à construire cette vision. tous les jours, moi j'accompagne en coaching et en management et en formation des managers et je les aide à construire une vision.
Comment vous faites alors? Comment est-ce qu'on forme un bon manager?
Alors, il y a plusieurs façons de former un bon manager. Il y a d'abord la formation classique, hein, qui passe par des groupes dans lesquels on s'inscrit et où on va assister en groupe à des formations avec d'autres managers qui viennent d'entreprises différentes. Et puis, moi, ce que j'observe depuis quelques années maintenant, c'est que le management, en tout cas les formations au management, deviennent de plus en plus individualisées. Les managers se tournent de plus en plus vers le coaching et ou vers des formations plus individualisées, vers du e-learning, vers des choses qui les sollicitent individuellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps souvent.
Oui.
Parce que leurs agendas sont
chargés.
Parce
qu'ils ne savent pas faire.
Oui, mais c'est surtout parce que leurs agendas sont hyper chargés aujourd'hui et qu'ils veulent pouvoir.
Mais est-ce que c'est pas de la responsabilité de l'entreprise de former ses managers? Parce qu'on a tendance à beaucoup sous-traiter, on a tendance à externaliser tout un tas de fonctions. C'est le cas maintenant du management, alors que c'est quand même central.
Absolument, on en parlait avec Violette. Alors c'est peut-être Violette qui est peut-être mieux placée pour répondre à cette question-là.
Mais justement, un sujet, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est absolument central, et puis c'est pas juste un sujet de responsabilité du dirigeant. Je pense que c'est aussi pour lui que ça va être extrêmement bénéfique. Aujourd'hui, notre dirigeant, et Marc pour en témoigner, qui est dirigeant à ma droite, ils ont une charge mentale quand même relativement énorme, c'est-à-dire la performance économique en 2023, c'est quand même un enjeu assez complexe, plus que les autres années où l'argent a coulé à flot. Et donc, il a une charge mentale tellement élevée que s'il n'a pas des managers qui sont capables de prendre le relais, de descendre la vision,
il faut déléguer.
De transmettre, mais bien sûr. Et du coup, pour eux, c'est pas juste je vais former manager parce que j'en ai besoin et que ça va permettre d'augmenter ma rétention. C'est pour baisser ma charge mentale et pour pouvoir me permettre de me concentrer sur ma vision et ma mission. Je vais transmettre grâce à ma formation management.
Emma Leclerc, oui, vous êtes chef d'entreprise.
Tout à fait.
Déjà, est-ce que vous externalisez la formation des managers chez vous?
On externalise une partie de la fonction des managers, effectivement, parce qu'il y en a besoin. Il y a des compétences clés auxquelles on n'a pas forcément toujours accès. Et dans les parcours d'initiation, de démarrage auxquels les managers n'ont pas toujours eu accès, typiquement le dialogue social, qui est un des sujets sur lesquels on se rend compte qu'il y a très très peu de formation initialement et que l'entreprise les transmet parfois peu. Donc sur ces sujets-là, on est obligé de faire appel effectivement à des organismes extérieurs qui viennent nous former sur ces compétences clés. Après, les managers, ils sont quand même fortement inspirés par la culture d'entreprise en elle-même. C'est-à-dire que cette culture d'entreprise, elle doit être portée par la fonction de direction la plus haute, qui doit être capable effectivement de transmettre cette culture à ses managers, de leur donner cette légitimité et cette habilité à pouvoir du coup transmettre la vision stratégique qui est proposée par les entreprises auprès de leurs collaborateurs.
Mais le management chez Delegatio, Emma Leclerc, c'est une promotion ou c'est quelqu'un dont on sent qu'il a l'envie et les compétences, ce leadership dont on parlait, pour occuper ce genre de poste?
En fait, les deux. Il faut absolument que la fonction de manager soit liée, déjà, à une attente du collaborateur en tant que tel.
À une envie.
À une envie. Il ait envie, effectivement, d'encadrer, d'avoir cette mission quand même assez spécifique, cette mission de service, de vouloir faire grandir ses équipes. Et en même temps, il faut que l'entreprise puisse lui donner la capacité, l'habilité à pouvoir, effectivement, exercer cette fonction pleinement auprès de ses collaborateurs. Donc, c'est vraiment un enjeu de légitimité de cette fonction qui est donnée par l'entreprise et de volonté du collaborateur en lui-même, parce que s'il ne le veut pas lui-même, on ne peut pas lui demander de manager.
Ça ne fonctionnera pas. Géraldine Dupont-Calvier, un bon manager, c'est aussi un manager qui a pris le temps de faire du développement personnel. Vous parlez de l'individualisation de la formation. Aujourd'hui, on ne forme pas au management, on forme des managers, des encadrants, des personnes qui ont ce leadership. Il faut quand même avoir confiance, il faut savoir gérer son stress, il faut savoir faire beaucoup de choses qu'on n'apprend pas forcément dans une évolution professionnelle systématiquement.
Alors, c'est très important tout ça, c'est-à-dire qu'on peut même noter que depuis le post-Covid, depuis le Covid, l'équilibre des compétences managériales a été largement chamboulé. C'est-à-dire que ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a aujourd'hui... l'équilibre soft skills, hard skills est largement chamboulé. Le développement personnel, les compétences personnelles, les compétences relationnelles sont devenues plus importantes presque que les compétences d'expertise pure pour devenir aujourd'hui
un bon manager. Il y a beaucoup de choses qui ont changé avec le Covid.
Il y a énormément de choses qui ont changé. Violette en parlait tout à l'heure. La capacité qu'on a à gérer sa charge mentale et son énergie, ça c'est une composante fondamentale. La capacité qu'on a à gérer sa motivation, la capacité qu'on a à gérer ses propres compétences et à accompagner les compétences de ses collaborateurs. La posture coach, celle qui vise à accompagner les autres, à les faire grandir. Toutes ces composantes-là sont fondamentales. Violette insistait aussi sur le fait qu'en post-Covid, on demande aux managers d'accélérer parce qu'il faut récupérer et maintenir la rentabilité de l'entreprise. C'est aussi une compétence de pilote qui aujourd'hui est largement demandée aux managers. Comment est-ce que je cadre l'action? Comment est-ce que je fais les feedbacks avec les équipes? Et cette compétence-là, elle est aussi largement demandée par les collaborateurs, parce que les collaborateurs Y, aujourd'hui, ils demandent à être cadrés. Ils demandent une direction. Mmh. Il demande des objectifs.
Violette Lebéan, c'est ce cadre aussi vous que vous apportez, parce que vous faites du recrutement, de la formation. Vous formez des managers?
On forme des managers. Depuis 4 ans, on a formé 1500 managers, donc ça commence à faire beaucoup. Et en effet, ils ont un besoin de grande liberté, et en même temps, ils ont un énorme besoin de cadre. Qui dit cadre dit outils, donc on leur apporte des outils extrêmement concrets pour leur permettre d'être vraiment meilleurs dans leur vie quotidienne. Comment je fais un point one-to-one? Comment est-ce que je fais une évaluation annuelle? Comment est-ce que je recrute les meilleurs talents? Parce que
c'est
quand même
parfois pas des choses très compliquées en réalité. C'est juste que on n'y pense pas forcément. Où on n'a pas les bons outils pour le faire correctement.
Il y a un mélange. Il y a des choses très faciles dont on peut outiller très facilement et c'est assez rapide. Mmh. Et après, il y a tout un sujet de posture, hein, dont on parlait tout à l'heure. Devenir quand même, enfin, le courage managérial, par exemple, qui est un sujet clé pour moi, c'est une posture qui s'apprend pas dans les bouquins et qui s'apprend pas en e-learning. Donc là-dessus, je pense qu'un des enjeux de la formation en 2023, c'est pas de se laisser non plus engluer dans de l'e-learning, parce que moi, je crois au présentiel et je crois au groupe de partage et de co-développement. Et je pense que c'est ça qui va pour moi, enfin, permettre aux gens d'être vraiment des bons managers. De s'entraîner en permanence, de pratiquer et de pas juste lire le best-seller américain qui est sorti sur...
D'accord avec ça, Géraldine?
Je suis complètement d'accord. Ouais. Oui, la nécessité pour les managers d'acquérir une boîte à outils concrète, pragmatique, qui leur servent immédiatement et tout de suite. Et puis pour rebondir sur ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est aussi la nécessité de faire ça en équipe autour d'une culture d'entreprise partagée. Et en ce moment, ce qu'on peut observer dans les entreprises, c'est la nécessité et en tout cas la volonté de mettre en place des séminaires de team building, des séminaires où chacun s'interroge ensemble sur quelle est ma culture d'entreprise autour de laquelle je vais pouvoir finalement m'associer et comment j'y contribue. Ce sont des données très importantes pour les managers.
Bon, avec tout ce que vous nous avez dit, normalement, on n'aura plus de mauvais managers dans nos entreprises, on espère. Merci beaucoup.
Merci.
Pour ce décryptage sur ce sujet avec nous, Géraldine Dupont-Calvier, dirigeante de GDC Coaching Conseil Formation, et Marc Leclerc, fondateur de Délégation Violette Le Buant chez Ignition Programme.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le Labo RH.
Le Labo RH. Et si vous postuliez ou que vous recrutiez sans CV, vous n'avez peut-être pas encore osé, mais c'est ce que va vous proposer de faire tout de suite notre invité. Bonjour Laurent Arnaud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le cofondateur dirigeant de Je ne suis pas un CV. C'est le nom de votre start-up lyonnaise. Vous êtes l'intermédiaire, d'une certaine manière, qui facilite les mises en relation entre les entreprises et les candidats.
Tout à fait. On part du principe que aujourd'hui, on est dans un marché du recrutement qui est paradoxal. Beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter. Et selon nous, on est dans un marché où il n'y a pas de pénurie de compétences, il y a une pénurie de candidatures. Et il y a un chiffre qui illustre parfaitement ça. C'est qu'en 2022, il y a plus 30% d'offres d'emploi et moins 50% de candidatures.
Le pouvoir, on l'a beaucoup dit dans cette émission d'ailleurs, il est passé de l'employeur à l'employé.
Tout à fait. Et les aspirations des gens aussi, elles changent. Il y a 2 personnes sur 3 qui envisagent de changer de métier en 2023. Et notre objectif, notre enjeu, c'est de permettre aux entreprises de regarder les gens différemment et de s'ouvrir à des profils différents. Regarder quelqu'un dans le passé, c'est souvent regarder quelqu'un dans son CV, pardon, souvent le regarder dans le passé. Et l'idée, c'est de pouvoir le regarder plutôt en fonction de ses compétences.
Vous êtes à la tête de Je ne suis pas un CV. Comment ça marche?
C'est une start-up. Donc on est un logiciel qui est biface, on s'adresse à la fois aux candidats et aux entreprises. Pour un candidat, c'est très simple, soit on va sur l'application, soit on va sur le site Je ne suis pas un CV, et l'idée c'est de pouvoir créer un profil de compétences anonymes. Comment on fait? On décrit ses expériences professionnelles, quand on en a, personnelles si on le souhaite, et en décrivant ses expériences, on valorise un profil de compétences qui reste anonyme. Et la valeur ajoutée qu'on a pour les candidats, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur leur futur professionnel et qui ne savent pas nécessairement vers quoi se tourner. La première difficulté quand on cherche un job, c'est savoir à quoi on peut prétendre. Et l'idée de Je ne suis pas un CV, justement, c'est de leur permettre d'accéder à des opportunités différentes.
Donc, qu'on comprenne bien, ce qui fait la différence avec un CV, donc, c'est que c'est anonyme.
Oui.
On met pas son nom, on met pas son adresse, on met pas son âge.
On le met, mais on ne le divulgue pas.
On ne le divulgue pas, voilà. On met pas sa formation non plus, on met pas son...
On peut la renseigner, mais tout ce qu'on met est crédité de compétences. Donc l'idée, c'est de regarder non pas les gens par rapport à leurs références, leurs expériences passées, mais par rapport à leurs compétences. Et l'objectif, c'est de permettre à une entreprise de se diriger vers des personnes qui n'ont aucune expérience dans le métier pour lequel elle recrute.
Et c'est ça, en fait, l'intérêt de votre innovation, ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément, comme on dit souvent, un CV long comme le bras. C'est avant tout ça.
Ça s'adresse un peu à tout le monde. C'est une innovation qui est née sur le job dating. Et moi, j'ai organisé beaucoup de job dating dans ma vie et j'ai vu des recruteurs en venir en me disant qu'ils avaient toutes les peines du monde à recruter et en partir en me disant, tiens, c'est marrant, si j'avais eu le CV de cette personne-là entre les mains, jamais je l'aurais rencontré. Et c'est l'objectif, et donc, c'est de leur permettre de s'ouvrir à ces personnes.
Là, avec vous, ce sont les entreprises qui contactent les candidats, ce qui est l'inverse total de ce qu'on fait d'habitude quand on envoie parfois des centaines de CV en espérant que l'entreprise quand même nous appelle.
Oui, exactement. L'idée, c'est bien de laisser les entreprises venir à soi et de faire en sorte qu'on se rende visible en étant anonyme. Mmh.
Ce que vous visez aussi chez Je ne suis pas un CV, c'est que ce sont les emplois qui ne sont pas proposés via des annonces.
Oui, l'idée, c'est de permettre aux entreprises d'avoir un autre biais à activer pour aller au-devant des candidats. Ne plus attendre, aller au-devant des candidats.
Le service, comment ça fonctionne? Comment vous rémunérez? C'est un service payant?
C'est un service payant pour les entreprises. On leur vend des prestations à la fois en termes de marque employeur. Elles portent avec nous cette ambition de renouveler les pratiques de recrutement vers plus de diversité et d'égalité des chances. Donc ça, c'est se rendre attractif auprès des candidats et puis après, se permettre d'aller au-devant des candidats par une plateforme SaaS.
Et ça prend? Combien d'entreprises déjà ou de candidats?
On a une centaine d'entreprises qui recrutent par ce biais. Là à Lyon, on est né à Lyon et aujourd'hui on a un rayon d'action qui est très lyonnais. Et notre ambition d'ici la fin 2023, c'est commencer à faire des pas de côté dans d'autres territoires en France.
Très bien. Quel retour jusqu'à maintenant? Des retours positifs? Peut-être des employeurs qui hésitaient encore avec le sans CV un peu formel, ils sont satisfaits?
Oui, parce que tous ont vécu cette démarche-là de rencontrer des gens et d'être surpris par le potentiel et la motivation de ces personnes-là. Et c'est la valeur ajoutée d'une démarche où on rencontre les gens, c'est de se laisser prendre par le potentiel des personnes qui ne s'expriment pas tout à fait par le biais d'un bout de papier.
Merci beaucoup, Laurent Arnaud, d'être venu nous présenter dans Happy Boulot. Je ne suis pas un CV, entreprise lyonnaise que vous avez cofondée. Merci infiniment.
Merci à vous.
Happy Boulot, c'est terminé, mais on se retrouve très vite le week-end prochain. Je rappelle que cette émission, c'est la vôtre. Vous la retrouvez en replay, en podcast, sur tous nos réseaux. Et puis, si un sujet vous intéresse en particulier, surtout, vous n'hésitez pas. Une seule adresse, je vous la redonne avec vous, @bfmbusiness.fr. Vous nous envoyez les sujets qui vous intéressent. Vos questions aussi, on les prendra avec nos équipes d'ici là. On vous souhaite bien sûr d'être le plus heureux possible au boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.